Marc Zisman.
Thank you.
Bonjour Frédéric Norel.
Bonjour.
Alors on vient d'écouter Dreamseekers, et justement Dreamseekers c'est le nom de votre album qui vient de sortir chez Mélis. Un album que vous avez enregistré avec Alexandra Grimal, Jean-Marc Foltz, Benjamin Mousset et Arnaud Cuisinier. Alors vous êtes un peu une sorte, on va en parler évidemment, mais avant de parler de l'album on va peut-être un peu parler de vous. Vous êtes un peu une sorte d'ovni, c'est-à-dire quand on voit sur votre site internet il y a écrit compositeur et violoniste. C'est quand vous rencontrez quelqu'un qui ne sait pas du tout ce que vous faites, c'est comme ça que vous vous définissez ?
Oui. Aujourd'hui, en tout cas. J'ai d'abord été violoniste longtemps, avant de... Je dirais que depuis 5 ans, la composition a pris beaucoup de place dans ma vie. Et voilà, donc aujourd'hui, je me définirais peut-être comme ça. Est-ce que c'est vraiment OVNI, violoniste et compositeur ?
C'est plus par rapport à ce que vous avez fait qu'on va peut-être évoquer, c'est-à-dire le côté d'accord. un petit peu dans tous les sens, c'est-à-dire que... Votre album, il est un peu de jazz, mais pas totalement. Vous travaillez beaucoup avec, j'allais dire, ce qu'on pourrait peut-être caricaturer, disons, des supports visuels, c'est-à-dire que ça soit aussi bien du théâtre, du cinéma, de la danse, des images,
ouais.
ou des gens vivants. Donc, vous êtes, c'est-à-dire que c'est pour ça, c'est plus sous cet aspect-là, c'est-à-dire un peu venu. Même si votre album, effectivement, premièrement, je crois qu'on le trouve plutôt dans les rayons du jazz.
Oui, c'est là qu'on le
voilà.
trouve.
Voilà, mais bon, est-ce que c'est vraiment du jazz
Est-ce que c'est le jazz Enfin voilà, mais...
alors justement, avant de parler peut-être des styles et de tout ça, comment vous êtes tombé dans le violon? Pourquoi le violon, tout simplement?
Le violon, en fait, ça a commencé quand j'avais 6 ans, donc...
C'est un choix personnel ou c'est les parents qui disent tu feras du violon?
En fait, c'est assez étonnant, c'est grâce à ma... Quand j'avais 5 ans, 6 ans, j'étais à la maternelle, juste avant donc le CP, et ma maîtresse de maternelle a dit à mes parents, qui n'étaient pas du tout musiciens, que je devrais peut-être faire quelque chose dans la musique. Voilà, j'avais des réactions aux exercices musicaux qui lui faisaient dire ça, et du coup ils m'ont inscrit au conservatoire à 6 ans. Et je veux dire que j'ai aimé ça tout de suite, la musique.
Les premiers souvenirs justement à cette époque-là, qu'est-ce que vous aviez des révélations? Il y avait des gens, des sons, qui vous intriguaient? C'était juste l'instrument et votre professeur? Comment ça?
Je crois que j'adorais regarder le grand échiquier. Peut-être que ça remonte pas aussi tôt, mais dans mon souvenir c'est un peu flou tout ça. Mais peut-être que déjà à 6 ans j'avais vu une émission du grand échiquier.
Et tu as dit Menuhin?
Non. Peut-être, sans doute. Pas encore Grappelli. Non, j'avais pas encore eu vendu jazz, mais la musique classique en tout cas oui. Et je sais que donc on devait choisir entre 3 instruments au conservatoire, suivant la disponibilité. Et j'avais mis violon, piano, violoncelle, et j'ai eu la chance. Le violon, il y a eu de la place. Voilà. Ça a commencé comme ça. Et en fait, j'ai eu mon premier violon, et je me vois très bien dans la voiture, avec mes parents, déballer l'instrument et découvrir qu'on pouvait jouer, à vous dirais-je, maman, avec les cordes à vide. En tout cas, on pouvait commencer sol, sol, ré, ré, mi, mi, ré, en montant d'une octave. Et ça a été donc ça, la première rencontre avec la musique, pour moi, ça a été ça. Enfin, avec la musique en tant que musicien-interprète, qui joue de la musique, ça a été ces 3 cordes à vide qui faisaient presque à vous dirais-je maman. Voilà.
On passe comment à l'écriture, à la composition ensuite? Est-ce que...
Je pense que... assez tôt, je vais pas donner d'âge, mais assez tôt, j'ai improvisé avec mon violon, en plus de l'interprétation des œuvres classiques que je faisais, que j'apprenais. Très vite, je ne pouvais pas m'empêcher d'improviser, d'inventer des musiques, de me rêver déjà un peu compositeur, je sais pas. Donc peut-être ça a été ça le passage à la composition, l'improvisation en fait pour moi.
Est-ce qu'on visualise sa musique à ce moment-là?
Est-ce qu'on visualise
par rapport à ce qui va venir après, le fait justement de travailler pour des images, pour des spectacles, pour des...
C'est intéressant. Je me rappelle plus bien comment. Je sais que c'était beaucoup à l'instinct, en tout cas. J'improvisais et j'avais beaucoup de plaisir et je me laissais faire et c'était presque enivrant pour moi. Alors peut-être que j'avais des images, mais.
Il y a un côté narratif.
Le côté narratif, je sais qu'il est venu après, mais est-ce qu'il est venu déjà au début en improvisant? Je sais plus. Mais effectivement. Le côté narratif, on en parlera, j'imagine, plus tard, mais dans la composition, c'est quelque chose qui est très important pour moi aujourd'hui. Et c'est presque une déformation professionnelle, mais c'est devenu partie intégrante de ma personnalité de musicien, en tout cas.
Alors justement, par ce côté OVNI, ce côté un peu assez éclectique, il y a trois exemples. Vous avez fait une musique pour L'Auberge Rouge de Jean Epstein, qui est un film qui est 1923, film muet. Ouais. Vous avez fait de la musique pour Très chère Mathilde, une pièce d'Israël Horovitz avec Lynn Renault au Théâtre Marigny. Mm-hmm. Je vous ai travaillé avec Régine Chopineau. Mm-hmm. J'ai vu qu'un de vos premiers faits d'armes, vous avez travaillé avec George Russell et son Living Time Orchestra. Enfin, ouais, donc ouais. Ça fait vraiment, hein, j'allais dire, une palette assez large.
Tout à fait. Mais en fait, ça a commencé vraiment par le jazz, après la musique classique, c'est quoi, je dirais 15 ans. À 15 ans, j'ai eu un prof de solfège qui était Bernard Struber, qui est directeur du département de jazz à Strasbourg. J'avais 15 ans, j'étais en classe de solfège, donc, et il m'a demandé si je connaissais Stéphane Grappelli, si je connaissais le jazz, tout ça. Et en fait, non, je ne connaissais pas. Je connaissais The Cure, je connaissais Asdes et la musique classique, mais je ne connaissais pas du tout le jazz. Et il m'a véritablement engueulé, excusez-moi le terme, mais voilà. Il m'a dit, quoi, c'est fou, là. Aujourd'hui, la France, la jeunesse ne connaît pas le jazz. Qu'est-ce que... enfin, voilà. Et du coup, forcément, ça m'a vexé, ça m'a interpellé. Et j'ai été à la bibliothèque municipale. À l'époque, j'habitais Strasbourg et j'ai emprunté des disques de jazz. Et en fait, c'est là que ça a commencé. Et là, j'ai adoré le jazz et ça ne m'a plus quitté.
Comment on sort de la Sainte Trinité, un peu Grappelli, Ponty, Lockwood? C'est vrai que c'est un instrument, il n'y a pas des milliards, ça ne se bouscule pas au portillon par rapport à, on va dire, le violon dans le hors classique et surtout dans le jazz.
Bien sûr, on en sort en écoutant d'autres instrumentistes.
Asdes et
voilà.
Et
Cure. Voilà, non, ça c'était avant. Mais... Enfin, j'écoute toujours d'ailleurs de plein de musique pop.
Faye Wetwell avec son violon.
Mais... mais c'est sûr qu'au début, quand on se met au jazz et qu'on est violoniste, on passe forcément par Grappelli, Lockwood, Ponty. Ponty a été très important pour moi, mais ça, je dirais que c'est extrêmement banal. En tant que violoniste de jazz, je pense que tout le monde vous dira ça. Et effectivement, ils sont peu nombreux. Pifarelli aussi, à une époque, a été très influent pour moi. Aujourd'hui, Mark Feldman m'intéresse beaucoup dans ce qu'il fait aux États-Unis. Voilà, finalement, il y a beaucoup de gens très différents dans ce qu'ils proposent comme improvisateur au violon. Et donc, chacun m'a interpellé à différents moments de ma vie. Mais je dirais que mon langage, j'espère, façonné... je sentais que pour avoir quelque chose à proposer... Il fallait que j'écoute surtout des saxophonistes, des trompettistes, des pianistes, et que j'ouvre mon langage finalement à ces instruments-là. Et je sais que moi, c'est vraiment l'aspect mélodique qui prime pour moi, même quand j'improvise. Et j'ai trouvé ça chez Chet Baker, j'ai trouvé ça chez tellement de musiciens de jazz d'ailleurs. Mais c'est plutôt là que j'ai été chercher en fait au début mes inspirations et que j'ai essayé de trouver les codes un peu de ce langage. Mais donc le jazz a... J'ai fait la classe de jazz du CNSM quand j'avais 20 ans, et donc je me suis vraiment mis dedans pendant des années. J'ai joué des standards avec Benjamin Mousset, avec tout ça, on avait des groupes, et c'était une obsession. C'est-à-dire que la composition était optionnelle à ce moment-là. J'étais vraiment dans le jazz, quoi.
Comment est arrivée la construction de cet album? Parce que justement, il y a ce côté, même si on a l'impression que c'est un long voyage, il y a vraiment des textures sonores, des approches mélodiques qui sont vraiment très différentes d'un morceau à l'autre. Il y en a qui vont avec des petits thèmes qui sont récurrents, qui font vraiment très proche d'une musique de film. Mm-hmm. D'autres qui vont plus lier à l'improvisation. En termes de production, c'est assez... Même, au final, cela dit, ça, on a quand même l'impression d'avoir fait un voyage assez unique. Comment est arrivée justement la construction de ce projet? Est-ce que vous avez quelque chose de précis en tête, dès le départ? Est-ce que ça s'est fait pendant l'enregistrement?
Un peu des deux. Ça s'est affiné pendant l'enregistrement et le mixage, mais je peux dire en fait déjà que j'ai mis du temps à faire ce premier album. J'ai fait plein de choses comme violoniste, comme compositeur, et avant de vouloir proposer quelque chose, j'ai mis du temps, tout simplement parce que j'avais envie de raconter une histoire, et c'est tellement compliqué de raconter une histoire avec un disque Jouer de la musique, c'est quelque chose qui est très agréable, que j'adore faire, mais proposer une musique, ça c'est quelque chose qui soit pas en plus fait pour un support, pour un film, pour une pièce de théâtre, c'est très compliqué. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux proposer comme musique? Et j'ai mis du temps à avoir quelques réponses, et c'est les premières réponses, ça va évoluer tout ça, hein, mais... donc ça s'est fait comme ça. Je me suis mis à écrire pendant plusieurs mois, j'ai écrit 20-30 morceaux, et j'en ai gardé d'abord une douzaine. Je me suis dit, tiens, ça me parle, ça me parle plus qu'une semaine, c'est-à-dire que ça continue à me parler là. Et petit à petit, l'univers s'est créé comme ça avec les 12 derniers. J'en ai enlevé encore 2 au fur et à mesure, puis 2 à nouveau au moment du résultat final. Et comment dire ? L'univers s'est créé un peu malgré moi quand même, c'est-à-dire que j'étais nourri de mon travail de compositeur pour la musique de film. L'idée de narration était en moi, l'idée de visuel était en moi, et elle m'a un peu dépassé. C'est-à-dire que je composais un peu comme si je composais pour des images intérieures.
Donc on en revient à la visualisation peut-être de votre musique, plus maintenant que...
Voilà, mais ce serait difficile pour moi de dire que j'ai fait cette musique en imaginant tel paysage. C'est pas comme ça que ça se passe non plus.
Et par rapport justement à cette difficulté que vous soulignez, ou de mise en place de tout ça qui se fait progressivement, est-ce que finalement, quand vous travaillez habituellement pour d'autres, pour des metteurs en scène, etc., c'est pas un peu comme une canne et ça vous aide finalement à développer vos compositions plus facilement ?
Alors, une canne, je dirais pas ça. c'est plus facile dans le sens où on a une direction qui nous est donnée. Et ça, c'est quand même assez confortable. C'est-à-dire que, mais en même temps, très souvent, je propose autre chose aussi. C'est-à-dire que les réalisateurs, ça dépend qui, les metteurs en scène aussi. Certains ont une idée très claire de ce qu'ils veulent. Et du coup, on peut proposer autre chose, d'ailleurs. Parce que, comme la ligne directrice est forte... on peut commencer à prendre de la liberté et à inventer. Pour d'autres personnes, là, ils n'ont pas tellement de... Enfin, j'ai déjà eu en face de moi des gens qui me disaient je sais pas, je te fais confiance, fais ce que tu sens. Et ça, c'est très dur. C'est très dur parce qu'on est au service de l'univers de quelqu'un. Et forcément, je suis pas... Là, on n'est pas dans la tête de cette personne. Donc, il faut réussir à créer quelque chose qui me ressemble, au service d'un univers, de quelqu'un. Et en fait, c'est un peu une histoire de fou. Mais on y arrive. Après, le dialogue. Souvent aussi, un point de départ. Une première musique proposée est un point de départ pour le dialogue. Donc, c'est aussi comme ça que ça peut marcher.
Dans cet thème fort, justement, il y a un par exemple, qu'on va écouter, qui s'appelle « Un homme contre une femme ». Qui a une sorte de ritournelle assez entêtante. Quelle est l'origine de ce morceau ?
L'origine. Je voulais quelque chose un peu naïf, comme ça. Et ça a commencé par cette mélodie qu'on va entendre, qui donc effectivement est jouée plusieurs fois en boucle, avec une orchestration à 3 voix. Et l'idée qu'après, Alexandra fait un solo d'Alexandra émerge de cette musique. Puis cet thème revient dessous et l'entoure à nouveau. Et finalement, elle se remet dans la musique à la fin. Donc c'était comment... D'ailleurs, le souci que j'ai eu pour toutes ces compositions, c'est comment l'improvisation et la composition peuvent se mêler. Et comment faire pour qu'on s'en rende même pas, on s'en rende pas compte, finalement. Enfin, que l'auditeur... en tout cas ne le relève pas, se dise pas tiens là c'est un solo, maintenant ça va être un solo de... qu'on oublie ça, qu'on se laisse emporter par la musique et donc voilà, un homme contre une femme, une mélodie simple, naïve, joliment, ah oui quand même si, à un moment j'ai eu envie de faire ça dans cette musique, j'ai eu envie de faire comme une chanson avec une rythmique punk dessous. C'est-à-dire que ça s'entend plus, je pense, maintenant.
Oui, ça s'entend plus trop à première vue, effectivement.
Mais ce qu'on entend en dessous, pour moi, ça vient de Sex Pistols, en fait, ce genre de truc. Et donc, tout ça, ça fait partie des influences qui sont avalées par ce qu'on sort après. Mais voilà, il y a eu ça. Je voulais, en fait, plusieurs couches. Une couche... Ah oui, là, j'ai répondu trop vite, là. Pour moi, la partie orchestrale du milieu, elle langue du côté de Duke Ellington et de ce genre d'arrangement, d'orchestration très... dont je suis absolument fan. Enfin, Duke Ellington, c'est un des arrangeurs, évidemment, que j'ai écouté en boucle et tout. Donc l'idée, c'était ça, c'était Sex Pistols en dessous, Duke Ellington au milieu, et au-dessus, une chanson très gentille, naïve, Un homme contre une femme, voilà.
Frédéric Norel, on va écouter votre hommage à Duke Ellington et aux Sex Pistols, Un homme contre une femme.
Thank you.
C'était un homme contre une femme, Frédéric Norel, extrait de votre album Dream Seekers, qui vient de sortir chez Mélis. Alors, cet album, effectivement, on parlait de texture. Là, vous avez parlé de Duke Ellington et Sex Pistols. Hein, effectivement, c'est assez surprenant, l'origine, surtout par rapport au résultat. C'est sûrement ça qui est intéressant. Il y a effectivement des textures vraiment différentes. J'ai pensé à ce morceau qui s'appelle Nuit après nuit, qui a des ambiances assez ECM, qui fait un peu penser à ce genre de nappe, un peu de texture et d'improvisation qui slalom entre tout ça. Est-ce que l'univers, par exemple, d'ECM, c'est aussi quelque chose, même si ECM est assez vaste et intègre des artistes assez différents, mais est-ce que c'est aussi une sorte de langage qui vous interpelle, comme on dit ?
Oui, d'ailleurs, ECM, ça a été... en fait, dans mes goûts en matière de jazz et de musique, ça, donc j'ai commencé à 15 ans, je vous racontais tout à l'heure, par The Cure et Asdes. Le pont entre la musique classique et autre chose, ça a été évidemment, à cet âge-là, la pop et le rock, New Wave, tout ça. En fait, pour pouvoir arriver au jazz vers 16-17 ans, au jazz vraiment John Coltrane, Charlie Parker, Duke Ellington, tout ce jazz-là, qui est finalement nos racines, et c'est plus que les racines. En fait, je suis passé par ECM, je suis passé par Terje Rybdal, un guitariste, et ça a été la révélation. Un ami d'amis m'a fait un jour découvrir chez lui Blue. C'est Blue, c'est ça, ah, Blue, voilà. Terje Rybdal, et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est ? Et donc voilà, ça a été, je pense, le pont entre le rock new wave et le jazz pour moi, et la musique classique. Et voilà. Et donc forcément, ECM, après, ça m'a accompagné aussi Shankar, les groupes comme Shakti, aussi pour le violon. C'est-à-dire que la musique indienne m'a évidemment tout de suite passionné, Subramanian, là on sort d'ECM, mais Shankar a été le pont, et donc à travers ECM, pour moi, vers la musique indienne. D'ailleurs, je fais de la musique indienne en ce moment avec Ravi Prasad, enfin, ça fait partie de mon monde, ce monde de la musique indienne. Et donc ECM, oui, pour répondre à votre question, ça m'a nourri, ça m'a beaucoup nourri. Après, c'est vaste, comme
effectivement.
C'est très vaste.
On a l'impression finalement que, en fait, vous emmagasinez des univers musicaux très différents, et à la fin tout ça, vous faites passer ça dans votre violon. Est-ce que, par rapport à même à votre formation, aux travaux différents que vous avez avec des cinéastes ou des metteurs en scène, etc., est-ce que parfois votre instrument vous limite ? Est-ce que vous le glouton de son et de musique que vous êtes parfois aurait besoin d'autre chose, ou pour vous tout se pense en termes de violon?
Déjà, tout se pense pas en termes de violon. Il m'arrive de composer et qu'il n'y ait pas de violon dedans. Ça, c'est pour des musiques de film ou des musiques de théâtre. Après, en tant que violoniste, forcément tout se pense en termes de violon, mais justement j'essaie de trouver un langage. En fait, le violon, il se trouve que c'est l'instrument dont je joue. Donc, mes mots sortent avec cet instrument. Mais évidemment, la tradition du violon est importante. Mais j'essaye de c'est un peu comme une voix. C'est-à-dire que j'essaye de... Quand je compose, j'imagine plus une voix qui est le violon, mais j'imagine pas cordes. Non, c'est compliqué comme question, parce que en plus, on a tellement d'a priori de clichés sur le violon en général, qu'il faudrait 5 heures d'émission pour parler du violon
et puis une richesse qui est peu connue parfois, enfin voilà, vous parlez de musique indienne, etc., enfin il y a quand même des choses qui existent, qui sont déjà très très vastes et très très différentes,
bien sûr. Et dans l'écriture, moi je sais que souvent l'orchestration, enfin quand on propose des violons dans les musiques pop ou de variété ou même de jazz, c'est souvent pas très passionnant, je trouve, ce qui est proposé. Les seuls qui ont vraiment fait un travail, je trouve, avec le violon et dans l'écriture pour le jazz, c'est à l'époque Didier Levallée, Swing String System. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais c'était peut-être il y a 10 ans maintenant, 10-15 ans. Lui, il avait vraiment, avec Pifarelli, avec tous ces gens-là, ils avaient cherché une écriture. Pierre Blanchard aussi, avec le Gulf String, avec l'iconiste son invité, il a fait un disque magnifique qui était très riche, et où le violon a une vraie... va plus loin que dans le jazz que des nappes de cordes qui sont là pour colorer Donc, quand vous me dites comment je pense violon, c'était ça votre question. Comment je...
Oui, est-ce que parfois, justement, votre voix, donc qui est effectivement le violon, c'est votre voix. C'est un peu comme si on demandait à quelqu'un, est-ce que vous en avez pas marre de votre voix, vous n'avez pas envie de parler autrement. Mm-hmm. Donc, mais est-ce que quand même, d'une certaine manière, sachant qu'un instrument, il est possible de parler autrement, est-ce que vous vous sentez parfois limité par le violon? Est-ce que vous seriez tenté, justement, de voir comment tout votre chaos musical pourrait passer à travers un instrument autre que les cordes?
Ouais, bah non, en fait, je suis pas tenté. Non, j'adore le violon. C'est un instrument tellement. J'ai tellement de chance de faire du violon. Il a sa place dans tellement de musiques différentes, que ce soit la musique classique, le jazz et les musiques traditionnelles. En plus, on peut l'emmener n'importe où. Enfin, c'est génial, j'ai beaucoup de chance. Donc, pourquoi changer? Non.
Non, il y a peut-être la motivation, comme on vient de le souligner, de dire qu'effectivement, c'est un instrument et qu'il y a des préjugés, etc. Et de vouloir justement montrer qu'on peut faire autre chose que.
Ça, oui, effectivement. Mais d'ailleurs, dans ce disque-là que je propose, je pense que.
Mais c'est la musique avant d'être du violon.
Voilà, c'est la musique avant d'être du violon. Il y a un ou deux morceaux, peut-être Dream Seekers, le premier. Le début ressemble vraiment à du violon. Presque classique. Mais après, j'espère que petit à petit, on oublie que c'est du violon et ça, on s'en occupe pas. En fait, c'est une voix parmi les autres voix et on s'occupe pas d'ailleurs que ce soit un saxophone ou une clarinette, les autres non plus. Et voilà. Et en tout cas, le violon a sa place dans plein de musique et comme une voix. Et voilà.
Depuis que cet album est sorti, bon, c'est récent, mais depuis qu'il a été enregistré, est-ce que ça vous fait penser la musique différemment? Parce que vous avez souligné un peu la difficulté que ça avait été justement de ne pas avoir un peu les billes de départ que pouvaient vous donner certains metteurs en scène ou autres, même si ce n'est pas la première fois, j'imagine, que vous composiez tout seul.
Non.
Est-ce que ça vous fait approcher l'univers de la composition différemment?
Déjà, j'ai très envie de faire le deuxième. C'est-à-dire que là, je me suis embarqué dans un truc qui est très excitant. Et
vous avez déjà en tête le Dream
déjà...
Seekers 2?
Oui, volume 2, oui.
Revenge of Dream Seekers.
En tout cas, cette porte-là que j'ai ouverte, que je me suis ouverte, et quel bonheur, et j'ai envie de m'y engouffrer et de continuer. Et effectivement, cet univers-là, je vais aller. En fait, une des quêtes de ce disque, pour moi, ça a été de faire quelque chose de lumineux. Et je pense que j'ai réussi en partie, et je pense que je peux aller encore beaucoup plus loin dans cette quête. Et je crois que le prochain album sera encore. J'espère, je vais essayer d'être encore plus lumineux. C'est-à-dire que je trouve ce qu'il y a de plus dur à faire dans la musique, c'est. Faire une musique triste, c'est très agréable. C'est-à-dire moi, en tant que compositeur, j'ai une certaine propension à écrire des choses qui peuvent être un peu tristes. Et là, dans ce disque, j'ai essayé d'aller contre ça, justement, de transformer cette émotion vers, justement, je vous disais, vers quelque chose de lumineux. Et c'est pas facile. Donc cette quête-là, ça va être ma quête, longtemps.
Est-ce que ça veut dire, justement, que par rapport à la suite, il y a une volonté... de travailler de plus en plus pour vous-même et peut-être de moins en moins pour les autres, c'est-à-dire pour le cinéma ou le théâtre ou la danse.
Ah, mais j'aime autant les deux.
Est-ce que pour vous, il y a vraiment des barrières? Il y a un mur entre les deux? Est-ce que vous passez d'un univers à l'autre? Est-ce que ça reste la même chose au fond?
Oui, quand même, c'est très proche. Hein, la différence, quand même, c'est que là, ce disque, il est aussi lié à la scène et que j'ai besoin de la scène. C'est-à-dire que j'ai toujours fait de la scène tout en étant compositeur à côté. Et je ne pourrais pas m'en passer. C'est-à-dire que écrire de la musique ou jouer la musique, c'est un peu comme... je me souviens, j'avais lu ça d'un compositeur de musique de film qui disait que écrire de la musique de film, c'est un peu comme écrire une histoire d'amour, mais jouer la musique, c'est un peu avoir une histoire d'amour. Et donc c'est pareil, moi j'ai envie d'avoir les deux. J'ai envie d'écrire une histoire d'amour, mais de la vivre aussi.
Et en même temps.
Voilà, et du coup, ce disque Dream Seekers, c'est aussi un... J'espère, on va faire beaucoup de concerts avec ce groupe et ça va être ça aussi, ça va être rendre cette musique vivante sur scène, en dépendance aussi avec le public. On a fait un concert là au Sunside ce mois-ci et ça a été fou, quoi. Ce qu'on a ressenti, on va prolonger ça le plus possible. Voilà.
Vous avez parlé de compositeur de musique de film, au-delà d'être vous-même parfois, j'allais dire, compositeur de musique pour des images. Est-ce que c'est aussi un pan de l'histoire de la musique qui vous a intéressé, qui vous intéresse? Il y a des compositeurs qui, pour vous, ont été des révélations?
Bien sûr. Actuellement, je dirais que celui qui m'intéresse le plus, c'est Alexandre Desplat, en France, qui a réussi, je trouve, et ça fait partie de mes quêtes aussi, il a réussi à avoir son univers identifiable à chaque fois. C'est-à-dire que dès que j'entends une musique, un film, dès que je vois un film ou j'entends une musique, d'Alexandre Desplat, je sais que c'est lui. Je dis, tiens, ça peut être Alexandre Desplat. Et pourtant, c'est au service d'un univers, et ça marche super avec cet univers. Donc lui, ça... Et puis, en plus, j'adore ses textures, et je trouve qu'il a réussi à mettre... Il met beaucoup de flûte, mais parce qu'il est flûtiste. et il réussit, je trouve, à faire quelque chose avec, dans l'orchestration avec la flûte, qui est très fin. Je trouve que... Enfin, ouais, c'est, voilà. Donc il y a lui, il y a... Badalamenti, évidemment, ça fait lui aussi parce qu'il est nourri justement par le pop, la musique classique, la musique classique. Donc lui aussi, c'est très important pour moi. Voilà, il y en a plein. Je dirais que c'est les deux qui me viennent comme ça, avec lesquels je me sens le plus proche peut-être dans les univers.
Alors univers assez différent d'un homme contre une femme, c'est un morceau qui s'appelle Inconscient.
Ouais.
Parlez-nous un petit peu de ce morceau. Je sais que c'est toujours difficile de parler d'un morceau, hein, plutôt de dire bah, écoutez-le.
Ouais, alors sur le morceau, c'est le seul, et d'ailleurs je ne l'ai pas mentionné sur le CD, c'est une erreur, mais après tout va tellement vite qu'on oublie des choses. Mais au début, je l'avais écrit, c'est l'un des seuls, donc je l'avais écrit pour une pièce de théâtre, pour M'aider, de Jean Anouilh, qui a été monté d'ailleurs, qui vient juste de se terminer au 20e théâtre par Ladislas Chola, avec Elodie Navarre, enfin, c'était un super projet. Et je l'avais écrit pour... le monologue de Jason qui parlait de l'amour de l'amour qu'il avait eu avec Médée avant qu'il bascule dans l'horreur et tout ça et voilà et en fait cette musique j'y étais assez attaché et je trouvais ça triste pour moi qu'elle en reste là et j'ai eu envie de la réorchestrer, de la réenregistrer et d'en faire quelque chose sur ce disque et c'est comme ça qu'elle apparaît sur ce disque et finalement elle est assez différente de sa création et justement cette musique elle a... Je crois que je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'elle est assez différente du reste de l'album. Elle a quelque chose, mais ça m'intéresse beaucoup, quoi, ce qu'il y a là-dedans. Et justement, le côté lumineux dont je vous parlais, je pense que j'aurais pu aller plus loin dans cette version que j'en ai faite, mais on n'a pas réussi, et c'est tellement dur. Et je dirais peut-être que je pourrais peut-être la mettre sur chaque album et en essayant à chaque fois qu'elle soit encore plus lumineuse. Je sais pas. Mais en tout cas, ça a été ça l'objectif, c'est faire quelque chose de qui soit ni triste ni gay, qui soit simplement en suspens et qui appelle, je sais pas, qui fasse partir. Hein. Donc j'espère qu'elle y arrive quand même un peu, mais c'était ça l'objectif.
Donc on va partir en écoutant Inconscient. Thank you. C'était Inconscient, extrait de Dream Seekers, votre album, Frédéric Norel. Vous êtes dit tout à l'heure, aller plus loin. Donc on sent qu'effectivement, il y a quand même eu beaucoup de révélations par rapport à ce disque. L'envie, vous avez déjà dit, vous avez évoqué la suite déjà. Qu'est-ce que cet album également vous a donné envie de faire, cette fois-ci, j'allais dire, dans les travaux autres que ceux personnels? Est-ce qu'il y a des allées, des recoins dans tout ce qui est spectacle vivant, que ce soit le théâtre, le cinéma ou autre, vers lesquels vous n'avez jamais été, qui vous attire? Ou est-ce qu'à chaque fois, c'est plutôt lié à des demandes ou à des rencontres des metteurs en scène aussi?
Effectivement, ça a été beaucoup lié à des demandes et des rencontres. Mais je dois dire qu'avec la danse, la seule expérience que j'ai eue, c'est avec Régine Chopineau. Mais finalement, j'ai été violoniste. C'est-à-dire qu'elle avait mis en scène un spectacle avec Ravi Prasad, donc le chanteur indien, et un trio à cordes dans lequel j'étais. Et elle nous a fait faire des choses complètement folles en jouant de la musique. Donc ça a été ça, ma rencontre. Mais... si j'ai eu aussi une rencontre une fois quand j'avais 18 ans avec une danseuse, on avait improvisé, mais c'est tout. En fait, oui, je crois que ça m'intéresserait assez un jour d'écrire une musique pour la danse. Et voilà, si effectivement, s'il y avait des choses que j'ai pas encore faites et vers lesquelles je serais attiré, ce serait ça, en tant que compositeur. Voilà.
Est-ce que vous êtes un compositeur? Est-ce que vous n'arrêtez pas d'écrire? Vous avez des bouts de papier, vous notez tout le temps? Est-ce que vous avez des phases par rapport à la composition? Comment ça se passe?
Alors, j'ai des phases et... et ça marche toujours de la même manière, même si je me mens toujours. Déjà, je travaille la nuit, c'est-à-dire que je me couche à...
La nuit, je mens, alors, c'est ça.
C'est ça. Mais en fait, en général, la première nuit de composition, je me couche vers 6 heures. Et au bout de 2 semaines, je me couche à 9 heures du mat. Enfin, ça se décale toujours de plus en plus. Et à chaque fois, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que pendant 3 nuits, je compose une première chose, une première pièce, en y croyant, en y mettant tout mon cœur. Et à chaque fois, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas très bon, ce qu'il en sort. Mais j'y ai mis tout mon cœur. Et grâce à un peu comme un déchet, c'est-à-dire que je sors, moi, les premières couches. Et ensuite, j'ai accès à autre chose. Et là, ça commence à me plaire et à plus et à exister vraiment, mais ça marche toujours comme ça. Mais à chaque fois j'y crois, hein. C'est-à-dire que dès la première je me dis que ça va être bien la première.
L'improvisation, comment ça rentre dans votre univers personnel, même si, comme on l'a dit tout à l'heure, est-ce que c'est du jazz, c'est pas du jazz, quel type de musicien êtes-vous? Il y a de l'improvisation, il y a de la composition. Comment la donnée improvisation intervient dans votre tête?
Et bien justement, c'est en ça que c'est du jazz, malgré tout, quoi qu'on dise, c'est que ces musiques, je les ai écrites en me disant, en aménageant une place pour l'improvisation, ou en tout cas en ayant toujours le souci en me disant toujours comment on va improviser avec ça, est-ce que la place est prévue, si elle n'est pas prévue, comment on va faire. Le seul endroit finalement, la seule composition où c'était pas prévu, c'est Dream Seekers, le premier morceau. Et du coup, la solution, enfin l'évidence plutôt, ça a été que ce soit une improvisation collective à la fin de l'écriture. Mais l'enjeu était de garder, de ne pas perdre la composition. C'est-à-dire que l'improvisation devait presque être dans la composition. L'univers devait surtout pas être perdu. Et ça a été magique, comme les musiciens de ce projet ont réussi à préserver ça. Et à chaque fois d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance. C'est-à-dire que je me suis vraiment pas trompé sur les gens, enfin à mon sens en tout cas, qui m'ont entouré pour ce premier album. Ça a été à chaque fois fou, quoi. Enfin, j'ai eu très peu besoin d'expliquer les choses, l'évidence était là. Donc effectivement, l'improvisation est un souci dans ce projet, l'improvisation, je l'intègre dans la composition. Quelque étape que ce soit, elle en fait partie.
Et amener ce projet sur scène, on vous a vu assez excité par rapport au concert qu'il y a eu, d'envie de faire d'autres choses. Ah ouais. C'est aussi un moyen justement de voir aussi ce qu'on peut faire par rapport à cette improvisation, encore plus.
Ouais, ouais. Alors moi, je pense que la suite, ça va se décliner de deux manières. Ça va être à la fois... festival de jazz, scène de jazz. Et par ailleurs, je crois que j'ai bien envie de monter là une résidence l'an prochain avec vidéaste et photographe. Enfin, j'ai des idées là, je ne vais pas encore en parler parce que c'est en gestation. Enfin, c'est plus qu'en gestation, mais c'est en... Voilà. Et là, on va garder tout ce disque. Je vais composer d'autres morceaux et on va mêler à cette musique l'aspect visuel justement qui est... Mais donc c'est un projet ambitieux et en même temps je veux évidemment pas tomber dans la facilité. Il va falloir trouver le sens de tout ça Enfin voilà, en tout cas, ça m'intéresse assez de creuser cette piste-là.
Dans Dream Seeker, il y a Dream, le rêve.
Ouais.
Est-ce que ce côté onirique, qui est fait effectivement porter un petit fil conducteur un peu par rapport à ces différentes textures de cet album, vous avez parlé tout à l'heure de Serge Ribdal, ce genre de choses. Est-ce que, enfin, l'onirisme dans la musique, c'est quelque chose qui vous fascine, qui vous intéresse, qui vous touche? Comment ça rend ce côté presque parfois un peu impalpable, un peu?
Bien sûr que ça me touche. C'est vrai que la musique, déjà, elle s'inscrit aussi dans nos vies. J'ai beaucoup de gens autour de moi, d'ailleurs plutôt des mélomanes plus que des musiciens, qui me disent que leur rapport à la musique, il est lié aux émotions et aux souvenirs. C'est-à-dire qu'une musique qu'ils ont écoutée à telle époque, s'ils la réentendent 10 ans plus tard, tout va ressortir. C'est une évidence ce que je dis, mais finalement, j'avoue que j'y pensais moins que ces personnes-là non musiciennes qui m'en ont parlé récemment là. Donc déjà le rêve, l'inconscient, on est nourri de ces musiques pour ça, parce que ça s'inscrit dans des moments de nos vies. Après évidemment il y a aussi on entend une musique, elle nous fait voyager, elle nous fait rêver ou pas. Je voulais dire quelque chose d'autre aussi à ce sujet, là, ça m'échappe.
C'est comme dans les rêves, en fait, finalement, on se souvient pas de tout, juste des bribes.
Si, voilà, notamment dans l'improvisation. Souvent, ça nous échappe complètement, les moments de où on est complètement connectés, tous. Alors, évidemment, c'est une histoire de pratique d'ensemble, c'est-à-dire que des musiciens qu'on connaît bien, on a très souvent cette connexion. Alors que des gens qu'on connaît moins, la rencontre crée souvent ça, mais après, c'est peut-être moins évident. Mais ce que je veux dire, c'est que cette rencontre, quand elle a lieu entre musiciens, elle nous dépasse quand même beaucoup. Donc elle est peut-être liée à ça, à cette part de ténèbres qui est en nous, enfin, de ténèbres, en tout cas d'ombre, qu'on ne peut pas dessiner. Et je trouve ça assez fascinant, tout ça nous échappe, et quand on compose aussi d'ailleurs, les sources de la création, ça nous échappe beaucoup.
Dans toutes les collaborations que vous avez effectuées, est-ce qu'il y en a, sans faire de top, est-ce qu'il y en a une ou deux qui pour vous ont été vraiment plus intenses musicalement, artistiquement que d'autres?
Dans les collaborations?
Oui, plutôt, oui, c'est là pour l'image, pour la scène, etc.,
Je peux parler quand même pour l'image. Il se trouve qu'il y a quelqu'un avec qui je travaille beaucoup qui s'appelle Fanny Guillard, et en fait c'est mon épouse. Donc forcément la rencontre a été bouleversante. Elle a fait un film Terra Magica qui est sur l'univers de Bergman, et ça a été magique. On a eu une chance tous les deux d'ailleurs inouïe de travailler comme ça ensemble sur un projet en étant dans une relation aussi personnelle. Ça a créé quelque chose d'assez fou parce qu'on en parlait jour et nuit de... Et là, évidemment, on parlait de ma partie, parce qu'il se trouve que je devais composer une musique pour ce film. Et le rôle de cette musique, c'était... le sujet du film, c'était... Elle voulait devenir un personnage de Bergman. C'est-à-dire que, dans le monde réel, est-ce qu'on peut devenir un personnage de Bergman en cherchant auprès des... En cherchant le bateau de Monica, là... Enfin, donc c'était une aventure un peu folle. Et mon rôle de compositeur, c'était de faire basculer la réalité vers, justement, l'univers imaginaire de Bergman. Donc ça a été une rencontre artistique bouleversante pour nous deux. Enfin, ça a été, voilà, j'ai eu la chance de vivre ça. Ça, c'était une première réponse, en tout cas, par rapport à votre question. Après, j'ai fait plein de rencontres avec des musiciens, avec des jazzmen, avec des metteurs en scène, tellement de gens différents que là, en sortir un ou deux, je ne suis pas sûr d'y arriver.
C'est pas grave.
En plus, j'en ai vexé certains, donc non.
Est-ce que vous écoutez beaucoup de musique? Est-ce que vous achetez beaucoup de disques, vous en téléchargez, vous allez au concert?
En tout cas, j'ai fait ça énormément. Pendant des années et des années, je me suis gavé de musique, jour et nuit. C'est même... évidemment, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être musicien sans avoir cette période dans notre vie.
Ah, il y a un peu toujours deux écoles. Il y a quand même les musiciens qui ont tendance un peu à rester près des partitions, près de leur univers. Et il y en a d'autres qui ont effectivement un besoin vraiment de s'abreuver un peu à toutes les sources. Il y a quand même toujours un peu de tendance. Donc vous êtes plutôt la tendance à...
Ah oui, oui, oui.
Moi, la musique.
Oui. Oui, bien sûr, moi je suis cette tendance-là. Et je suis curieux de tout. J'ai plein de révélations des fois.
Vous avez des révélations récemment, par exemple?
En tout cas, il y a deux ans, alors je vais dire Arvo Pärt, vous allez dire que c'est pas une révélation, mais c'est un morceau d'Arvo Pärt. Alors à chaque fois je confonds si c'est Spiegel ou Spiegel, en plus je suis pas très bon en allemand, ou c'est l'autre. En tout cas, c'est un piano-violon, et c'est un éloge du rien pour moi, c'est-à-dire qu'il y a une idée, et elle est développée comme ça, et c'est fou. Ça a été un choc, c'est-à-dire que... mais là c'est pas très intéressant ce que je dis, parce que je me souviens plus du titre du morceau, mais voilà, en tout cas ça a été une révélation, ça. Plein de révélations. Ouais, il faudrait que je réfléchisse un peu là, mais...
Donc la suite de Dream Seekers, à première vue, ça serait pour quand normalement? Est-ce que vous avez déjà en tête
Je dirais peut-être dans deux ans, quelque chose comme ça, ouais.
D'autres projets d'ici là, ou d'autres collaborations?
Collaboration, oui. J'ai une musique de film, un documentaire pour Arte sur l'amitié, pour lequel je vais faire la musique. Aussi deux pièces de théâtre, mais ça, c'est quasiment monté, donc je ne le dis pas tout de suite. Et aussi d'autres choses. Enfin, j'ai pas mal. Il se trouve que cette année a été très productive, et j'ai rencontré des gens. Très divers et très intéressants, et enfin il y a pas mal de suites là qui sont sur le point d'aboutir, et voilà. Mais c'est vrai que là, Dream Seekers volume 2, ça va être ma préoccupation première, et aussi les concerts, faire vivre cette musique là, ce premier album là, aller au bout de tout ça, et c'est passionnant. Enfin, je me régale.
Ouais. Alors, on va se quitter avec un dernier extrait de Dream Seekers Volume 1 en attendant. encore un autre, un peu univers musical. Donc, c'est le morceau qui s'appelle Le Présage de Fanny.
Je peux juste peut-être dire un petit mot aussi sur Edouard qui a monté ce label Mélis.
Oui, c'est Edouard Ferlet.
Edouard Ferlet, je vais quand même dire que ça, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer, et qui ça s'est fait très vite, c'est-à-dire que j'ai eu. Il a été tout de suite un producteur génial, et voilà, ça a été une collaboration magnifique. Je voulais juste dire ça.
Donc, ce morceau, le présage de Fanny, une idée à la base, quelque chose
hein, là aussi, Fanny est pour beaucoup dans la naissance de ce disque, c'est-à-dire qu'elle ne m'a pas lâché du début à la fin de cet album. Fanny, donc ma femme. Et voilà. Et donc, elle m'a. Si ce disque a vu le jour, c'est lié. Pour tellement de choses, donc le présage de Fanny, peut-être le présage, alors soit un jour j'ai eu le présage que j'allais rencontrer quelqu'un qui s'appelle Fanny, ou est-ce que c'est le présage de Fanny sur cet album, je sais pas, je vous laisse choisir le sens.
On va laisser les auditeurs choisir. Merci Frédéric Norel.
Je vous en prie, merci à vous. Thank you.
par Mark Zisman.